Bien, nous allons donc passer à Sir Michael Bradley, donc, qui est un des fondateurs de l'imagerie médicale et de son analyse. Le temps de retrouver ses transparents.
Merci Gérard et merci pour inviter un étranger, quelqu'un hors de l'Europe. Et, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Par exemple, j'ai appris que j'ai un H-facteur qui est supérieur de ceux d'Alan Turing. Je vais le dire à la présidente de l'Université d'Oxford demain matin. Deuxième chose que j'ai appris, suite de Tom Nichols, c'est que, en fait, grâce au fait que ma femme et moi, nous sommes les volontaires pour BioBank, nous sommes en train de mourir plus lentement que normal. Et peut-être dans Eurostar, je peux comprendre quel est le sentiment de ça. Et alors, donc aujourd'hui, je vais parler comme le fier parent que je suis. Sur quatre de mes enfants. En fait, j'ai lancé 10 boîtes pendant les derniers 25 ans et il ne reste que 5, j'ai vendu 5. Alors, je veux parler dans un premier temps de l'application de tous les aspects scientifiques qu'on a dans la parler aujourd'hui et on fait les résultats de notre science à l'Université d'Oxford et jusqu'à ce jour, nos résultats sont implantés dans 6000 hôpitaux en 40 pays du monde. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler sur imagerie médicale et apprentissage automatique. Et je commence juste quelques mots sur le taux de cancer du sein, et c'est pas nécessaire de parler sur ça, il y a quelques introductions là-dessus. Et juste pour dire que dans les pays les pays développés, mais ça inclut aussi les pays du tiers-monde comme le Royaume-Uni, on a une femme sur 8 qui sera atteinte du cancer du sein pendant sa vie. Une tendance qui est vraiment à la hausse. Et juste pour le dire, qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé ces recherches, ça fait 1 sur 12. Et actuellement, c'est 1 sur 8. Et il y a 25 ans, c'était presque pas connu en Asie. Et actuellement, c'est 1 sur 12 chez les Asiatiques. Et les raisons principales, à mon avis, les aspects génétiques n'ont pas changé les derniers 25 ans. Donc, les raisons principales sont les facteurs extrinsiques. Et en Asie, c'est surtout chez les jeunes. Et dans les pays occidentaux, c'est l'incidence maximale, c'est après l'âge de 60 ans. C'est bonne nouvelle pour ma femme. Elle a passé cette seuil. Le système CAD n'a jamais pris en Europe. Et c'est, dans un premier temps, c'est parce qu'ils n'ont jamais travaillé suffisamment. Mais autrement, les radiologues détestent les images qui sont étiquetées par toutes les choses qui les distraient. Donc, nous avons travaillé, Nico Kassimeyer et moi-même et Carl Evertz, qui a lancé Mevis. Nous avons discuté suite à un projet européen à Chur. Nous avons développé ScreenPoint à Nijmegen, aux Pays-Bas, et pour un système qui apporte un soutien aux radiologues, mais que et seulement à sa demande. Il faut qu'on se souvienne que sur 1000 mammographies, il n'y a que 30 qui est en question. Et entre ça, normalement, il y a entre 6 et 10 qui ont cancer masse ou des microcalcifications. Donc, pour la plupart, la radiologue, facile. Il n'y a aucune nécessité d'un système CAD. Mais de temps en temps, ils regardent les systèmes ici. Il y a un... voilà. Il y a un système là, le petit bouton là, qui est, une fois que c'est enclenché, le système montre qu'il a détecté des microcalcifications. Si ça est enclenché, le système montre qu'il a détecté des tumeurs. Et à la demande du radiologue, le système donne un score qui est là, qui normalement, ce n'est pas visible, mais c'est la probabilité qu'il y ait un masque qui soit un tumeur. Par exemple, ici, on a la correspondance d'un masse détecté dans le médial latéral oblique, un masse dans le crânio-caudal. Les deux sont liés, c'est les deux vues du même masse. Et ici, le radiologue a demandé quelle est la probabilité d'être un tumeur. Et enfin, nous avons juste fini la semaine dernière. Une comparaison avec 101 radiologues en comparaison avec notre logiciel. Et nous sommes, en fait, le système transparent est supérieur, surtout ici, sur le point d'opération qui est entre 0,1 et 0,2 pour le point d'opération. Et enfin, en février, nous avons fait une comparaison. Avec 4 centres, 3 pays européens, avec toutes marques de machines MAMO, avec 1435 examens, avec 24 radiologues. Et on a mesuré le AOC pour le Receiver Operating Curve, et on a mesuré en février. Et en fait, il y a 2 mois, la performance de notre système était 55 ans vers les radiologues. Lui, il est le meilleur radiologue. Il est le meilleur radiologue en Pays-Bas. Je le connais très bien. Il est mon point de référence. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, la semaine dernière, on a fait les résultats d'un examen qui a 2458 examens avec 101 radiologues. Et actuellement, nous sommes supérieurs à 66%. Donc, 2019, je ne sais pas. Plus important, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une compétition avec les radiologues. Notre sentiment d'être, c'est d'agir en plus comme une aide, comme un thermomètre intelligent. Et donc, ici, on a 12 radiologues. Le plus expérimenté ici, un junior là-bas. Et en fait, ici, en noir, on a la performance d'un task de détection des tumeurs, et on peut voir la variation importante parmi les radiologues. Mais avec le système, on a une performance beaucoup plus égale. Et les juniors, la performance est beaucoup plus améliorée ici. En tous les cas, c'est amélioré, mais ici, on a juste un petit pas, mais là, énormément. Et j'ai parlé de le score transparent. En fait, ici, on a 10% des mammos dans chaque ensemble. Pour les scores 10, ça compte en fait 72% de tous les cancers détectés, etc., etc. Et en fait, entre 6 et 10, on compte 11,2 cancers sur 1000, mais en revanche, ici, 0,7. Et c'est pour ça que si on regarde les coûts financiers et le temps important de dépistage et le manque de radiologues qui sont spécialisés en ce moment en mammographie en Europe, les pays nordiques ont demandé est-ce que le lecture unique plus transparent serait acceptable. Et en fait, en ce moment, on a avec Norvège, Suède, Danemark, Finlande et le Royaume-Uni, nous avons une expérience pour tester ça. Juste pour ceux qui s'intéressent dans les trousses, en fait, nous avons créé le système en 2 étapes. Première étape, c'est facile, c'est UNET, très bien connu. Ça, c'est pour la proposition des régions d'intérêt. Et dans une deuxième étape, classification des régions 5,5, les régions extra-passantes, et avec architecture VGJ. VGJ, c'est l'architecture normale. On a fait une architecture, les examens, un entraînement avec 250 000 examinations multivues, c'est-à-dire le crânio-caudal et médio-lateral-oblique. Et c'est pour ça qu'on a les performances que j'ai parlé. Mais en fait, le futur, c'est pour la mammographie. Aux États-Unis, la plupart des ventes des systèmes MAMO sont tomosynthèse. Donc, en fait, nous avons un système pour la détection de tumeurs dans le système tomosynthèse. Et ici, par exemple, tu peux voir une masse là-bas. Et en fait, avec les images tomosynthèse, on peut détecter tout de suite les tranches qui sont d'intérêt. Et voilà, ça c'est le MAMO, ça c'est ScreenPoint. Le deuxième exemple, c'est Optellum, que j'ai lancé avec Jérôme Declercq, bien connu par quelques personnes dans la salle, Vassa Porichil et Timo Kadia. Et le point de départ, c'est que, en fait, si tu regardes le cancer du poumon avec sans détection précoce, on a un survie à 5 ans de 15%. Mais si on a une détection précoce, le survie à 5 ans, c'est 80%. Donc, ça c'est d'intérêt. Mais en fait, le problème, c'est. Le taux de faux positif, par exemple ici, on peut voir deux nodules détectés avec une recommandation d'un deuxième examen après 12 mois. Ça, c'est de l'hôpital à Oxford. Et bien sûr, 12 mois après, ça, c'est bénin, c'est rien changé. Et ça, malin, c'est agrandi. Et en fait, le taux de false positif, normalement, c'est 97%. Ça donne 10 millions de nouveaux patients par an et 20 millions de tomographies suivies par an. Avec un taux de comorbidité des procédures excessives, par exemple de radiation, de biopsie et bien sûr de chirurgie. Donc, nous avons créé un système où on a le tomo en place, on prend les images densitométriques, des images d'ICOM, c'est toujours en place. Et en fait, je donne les détails tout à l'heure, en fait, on a fait une régression pour apprentissage automatique avec un base de données géante. Géante, petite, tout est relatif. Et biopsie virtuelle du poumon. Et on donne un score pour le risque. Et on a gagné, un prix, une médaille d'or. C'est tellement rare en Angleterre. Et, donc, on a commencé avec un tout petit base de données avec le National Lung Cancer Screening Trial et l'Université d'Oxford Hôpital. Et on a fait une première expérience avec la texture, avec le support vector regression, avec à peu près 2000 features. C'est normal, ça c'est typique d'une thèse, d'un master's. Et ici, on a un base de données qui est beaucoup plus intéressant, qui avait 20 000 patients, mais ici avec les grands centres, bien sûr en Angleterre, mais aussi de Heidelberg et de Groningen en Europe, mais aussi de MD Anderson et Vanderbilt et le Knight Cancer Center aux États-Unis. Et nous avons, il y a 6 mois, un base de données de 20 000 patients. Et nous sommes en train actuellement vers une base de données de 200 000 patients. Avec, par exemple, le Veterans Administration aux États-Unis, etc. Et nous sommes actuellement 50 000. Et avec cette base de données-là, on a fait une deep CNN regression avec une supervision complète, avec bien sûr VGG. Et avec ça, on est en train actuellement de faire une supervision faible avec cette base de données-là. Et juste un petit mot sur les bases de données. En fait, il y a deux types, à peu près. Il y a eux qui sont symptomatiques et eux, la plupart des nodules sont trouvés comme pour les asymptomatiques. Et pour les symptomatiques, c'est biaisé, on verse les grosses tumeurs avec le CT avec produit de contraste, avec une épaisseur de coupe qui est beaucoup plus fine par rapport à les asymptomatiques, qui sont biaisés, on verse les petits nodules, la basse dose et sans produit de contraste. Et ça, si vous voulez, ça c'est un écho de les choses qu'a dit Tom Nichols ce matin et aussi Bertrand Thirion. Ils ont souligné le fait qu'on a pour les grandes bases de données les aspects biaisés comme ça. Excuse-moi. Alors, un troisième exemple, c'est on fait la planification de radiothérapie. Je suis chef de le centre d'imagerie de cancer à l'Université d'Oxford. Et nous nous intéressons beaucoup de radiothérapie. Donc, on a fait un système par apprentissage de planification des radiothérapies, mais avec les plans. En ce cas-là, les plans sont les plans des meilleurs centres mondiaux, par exemple de Groningen, de Heidelberg, de Oxford, de MD Anderson, de Mayo Clinic, etc. Et puis, on utilise le système qu'on a construit, qui Deep Learning Contours. On l'utilise dans un autre centre, un petit centre, qui adapte les plans qui sont entraînés dans les meilleurs centres mondiaux, mais modifiés selon les préférences locales. Et juste pour... un exemple ici, par exemple, thoracique, on fait une comparaison avec DICE. DICE, c'est le chevauchement de la vis d'un spécialiste avec le système. Et ABAS, c'est le système introduit par Elekta. Et ici, c'est le DICE pour DLC de Merada. Et au-dessus de cette ligne, c'est bonne nouvelle. En dessous, c'est de mauvaises nouvelles. Et ici, par exemple, à Groningen, pour le tête et cou, qui est très, très, très difficile, vous pouvez regarder la performance du système DLC. Mais je veux parler en fait sur la pandémie maladie du foie. Quel est le problème? Le problème de base. Prendre un petit randonnée dans n'importe quelle ville aux États-Unis et vous pouvez regarder les gens minces comme ça. Et mais plus triste, c'est les jeunes comme ça. Un enfant sur 8 en Europe actuellement est obèse. C'est une catastrophe pour la santé de l'Europe. 20 ans après, on a le diabète. On a les gens qui seront aveugles. C'est les gens qui vont perdre soit une jambe, soit un bras. C'est une catastrophe. Et il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour le battre. Et bien sûr, on a la nourriture favorite du monde, et avec le gaspillage comme boisson, comme Coca-Cola. Et mais les chiffres sont choquants, quoi. 25-35% des populations occidentales ont une maladie qui s'appelle stéatose. Stéatose afflige actuellement 120 millions de gens aux États-Unis. et à peu près 20 millions au Royaume-Uni. Un sur quatre entre eux va développer stéatohépatite. Stéatohépatite, ça fait 30 millions aux États-Unis et entre eux, au moins la moitié va développer soit cirrhose, soit cancer du foie. C'est énorme. Les chiffres sont absolument énormes. La moitié des cas du mondial de non-alcoolique stéatohépatite sont en Chine. C'est catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien connu que si on prend un IRM quantitatif, pas IRM pondéré, un IRM quantitatif, T1, et je vais expliquer tout à l'heure, c'est très bien corrélé avec les premiers étages du développement des maladies du foie, par exemple de stéatose. Mais c'est une corrélation qui était au départ 85%. 85%, ça ne suffit pas. La découverte de Rajashi Banerjee, il y a 6 ans, c'est que si on corrige cette image pour prendre en compte la quantité, le taux de fer dans le foie, on a une corrélation pour laquelle ORAC est 0,94. Enfin, actuellement, c'est 0,98. Donc, il faut une analyse quantitative IRM, il faut analyse du fer, il faut corriger l'IRM. Et tout ça pour éviter ça. Et il y a 10 ans, le FDA a dit que les biopsies sont le gold standard, le standard doré. Heureusement, il y a 2 semaines, ici à Paris, 3 semaines, il y a ici à Paris, pour EASL, pour les études dans les maladies du foie, le FDA a dit, ouais, bien sûr, ça reste le standard, mais c'est plus doré et on veut remplacer ça. Si j'ai eu, parce que j'ai, sauf pour le cancer du sein, mais normalement je soumets moi-même pour tous les tests comme ça pour les expériences. Et si tu as ça avec une vraiment avec ça, c'est à peu près 20 cm. Et ça, c'est douloureux, hein? C'est douloureux. Et c'est un bon échantillonnage, hein? 1 sur 50 000. Ouais. Pour un foie qui, normalement, qui pèse 2,5 kg. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a, par exemple, le Siemens, de G, de Philips. On peut avoir les systèmes pour quantitative T1, soit variable flip angle, soit modified look locker inversion recovery. Bon, mais ça, c'est possible, on peut acheter quantitative T1. Aussi, on peut avoir avec moins carré non linéaire ideal, on peut faire une estimation de le taux de matière grasse, proton density fat fraction, et ça qui est une mesure du fer du foie. Et avec ça, avec les occasions de basse d'IRM, on peut corriger ça avec ça, et on a le T1 corrigé, on a le fer, on a les moitiés points. Et comme ça, on peut avoir, par exemple, les rapports. Par exemple, ici, c'est coloré, vert, c'est bonne nouvelle, rouge, c'est mauvaise nouvelle. C'est comme les fers pour la circulation, sauf en Italie, ils ignorent ça. Mais ici, vert, c'est bon, rouge, c'est mauvaise. En fait, ça, c'est un exemple de stéatohépatite non alcoolisée. On a parlé de biobank. Et enfin, nous avons processé actuellement 15 000 exemplaires. Ils sont montrés ici. Ici, c'est le matière gras. Ici, le fer. Ici, le T1 corrigé qui est en fait, c'est une mesure de fibre inflammatoire. En fait, c'est la motilité de proton de l'eau dans le foie. Et ici, par exemple, on a 5%. Le gouvernement britannique a l'idée qu'on doit être inférieur à 2%, c'est-à-dire presque personne en Grande-Bretagne. Avec 5%, il y a énormément ici qui sont supérieurs à ça. Ici, on a le fer, lui, certain que c'est hémachromatose. Absolument certain, c'est hémachromatose qui est génétique, mais c'est bonne nouvelle. On peut avoir, par exemple, la transfusion de sang et on peut contrôler. Et ici, c'est fibro-inflammatoire. Ça, c'est suite à un expériment que j'ai produit. Donc, on peut diviser ici, matière grasse, ici, fibro-inflammatoire, ici, a priori, stéatohépatite. Ici, stéatose. Ici, normal. Bonne nouvelle! Ça, c'est moi. Je suis là. Donc, si ma femme dit tu dois perdre du poids, non, je suis à gauche de cette ligne-là. Ça suffit. Nous avons fait une expérience avec une grande femme aux États-Unis. Dans le Texas. Ça, c'est un IRM avant la chirurgie bariatrique. Elle a eu un IMC à 34. Et après la chirurgie, 6 mois après, elle a eu un IMC de 24. Elle a perdu du poids. Est-ce que le foie a amélioré ou pas? Oui, c'est beaucoup amélioré. Ça, c'est avant la chirurgie. Ça, c'est 6 mois après. Okay. Donc, ce n'est pas une question de perdre du poids. C'est une question de la qualité du foie. Alors, si on regarde, c'est une maladie auto-immune qui est cholangite sclérose en primitif, CSP. Ici, c'est un jeune. À l'époque, il avait 19 ans. Et en fait, à l'époque, il était considéré pour une transplantation. Mais en fait, son médecin, qui est un copain, son médecin a dit non, il ne veut pas faire une transplantation avec un jeune qui a 19 ans. Donc, il a fait une course très agressive, prednisolone et azathioprine. C'est normal, c'est le régime normal. Mais c'était vraiment dur. Bonne nouvelle, 8 mois après, 100 fois comme ça. 1 an après, comme ça. Si on a fait une biopsie, si on a fait une biopsie là, et là, et là, rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais bien sûr, ça s'est beaucoup plus amélioré par rapport à ça. OK. Donc ici, on a hépatite auto-immune. Ici, on a CSP, cholangite sclérose en primitif. Est-ce qu'on peut distinguer entre les deux? Ouais, mais les images sont très, très complexes. C'est difficile. Et donc, on a fait une segmentation par apprentissage automatique en utilisant UNET, mais est-ce qu'on peut distinguer HAI et CSP? Alors, nous avons fait dans un premier temps les superpixels, c'est comme les fleurs au monde. Ici, on a la variation dans le foie, entre les superpixels et dedans les superpixels. Et Si on a le niveau de phosphatase alcaline sans image, on a un area au-dessus le curve AOC 0,5, et avec ça, 0,85. Ce n'est pas fantastique. Mais le problème, limitation au problème fondamental, c'est encore c'est un problème qui a discuté Bertrand et Tom ce matin. En fait, nous avons découvert quelques morbidités concomitantes. Par exemple, les gens qui ont HAI et CSP, ou les gens qui sont étiquetés CSP, qui ont fait pour une deuxième vue avec HAI, etc. Donc, il y avait un problème avec équitage. Donc, dans le jeu des données utilisées, mais avec une correction là-bas, ça c'est 0,92. Et pour la différenciation entre HAI et NASH, on a déjà 91. Deuxième deux mots, je veux souligner l'importance des exemples négatifs. Ici, un travail de Patrick Winston dans la préhistoire avant en 1975, apprentissage des constructions géométriques. Un arc. Et ici, pas un arc. J'imagine que tout le monde dans la salle a appris avec 5 exemplaires quelle est la définition d'un arc. Et la raison, c'est apprentissage one shot, c'est un petit ensemble d'exemples choisis judicieusement et les non-exemples qui manquent un aspect clé, c'est-à-dire un near miss, un quasiment clair. C'est la même idée de base de support vector machines. Donc, la taille d'une base de données, ce n'est pas tout. C'est faux aussi, des exemples négatifs. Et c'est bien connu, par exemple, pour les systèmes nous avons utilisés, par exemple, utiliser la modélisation graphique pour les tomos du corps entier. Et on avait à l'époque une base de données qui était absolument énorme, c'est-à-dire 80. Et pour éviter les minima locales, on utilise les modélisations graphiques et ça qui donne une importance égale d'informations positives, l'objet, et négatives, l'arrière-plan. Donc, en sommaire, apprentissage automatique, c'est un outil très, très, très puissant qui supplée à l'analyse des images médicales, mais ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas un remplacement universel. Ça, c'est un écho qui a fait Nicolas ce matin. Il faut que la base de données représente la distribution typique de la maladie, des patients, des images, etc. Ce qui est un écho de Bertrand et de Tom Nichols ce matin. Dans la pratique, la taille d'une base de données est souvent de l'ordre de 100 plutôt que l'ordre de millions. Augmentation dans les invariances, normalisation, c'est super important de faire la normalisation des données, par exemple, density par les mammographies, Theon quantitative pour le IRM, etc. Et ça élimine la plupart des insuffisances. Et dernier mot pour ça, c'est inclusion de la modélisation physique avec apprentissage automatique. Encore un écho de Nicolas ce matin. Il faut absolument qu'on fasse attention aux bias intrinsiques des données réelles et aussi à l'importance des informations positives et négatives. Et je vous remercie, mais surtout pour accepter mon accent horrible.